c'est ludique. 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Bienvenue dans C'est ludique. Aujourd'hui, au programme, en fin d'émission, on retrouvera Copla, bien entendu, qui nous dira si on y rejoue ou si on n'y rejoue pas. Un an après, je vais vous parler de Clash of Magic School, le nouveau jeu de Yu Rosenberg. Et dans le rétro avec Jonathan, eh bien, on va parler justement d'un des succès de Yu Rosenberg. Bonjour Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Ça va bien ?
Ouais, ça va et toi ?
Bah très très bien. Alors on va parler d'un jeu de Yu Rosenberg. Yu Rosenberg hein, est très connu dans le monde du jeu de société, notamment dans le jeu de joueurs aussi. Hein.
Ah ouais, alors Yu Rosenberg, ouais, c'est un des grands noms du jeu de société. Alors, il a fait pas mal de jeux de gestion qui sont assez connus, hein, le plus populaire étant sûrement Agricola.
Ouais.
Et puis il y a quelques années, il s'est lancé un peu dans le jeu plus d'agencement, d'agencement de tuiles, de polyomino avec Patchwork. Et d'ailleurs, le jeu dont tu as prévu de parler d'école de magicien est, il me semble, l'un de ses premiers jeux.
Ouais, ça s'appelait Babel.
Voilà, ça s'appelait Babel, qui est assez atypique dans sa ludographie, un jeu d'affrontement pour deux joueurs très tendu. Moi, j'avais
très,
beaucoup
très aimé. Très bon, ouais, très très bon.
Ouais, très très, très bon ouais. Jeu, et bon, alors peut-être avec un design un peu allemand et un peu vieillot, et là...
là,
on est avec Nayad, il me semble, et que ça va être un petit peu plus sexy pour le coup.
Ouais, et c'est très tendu, parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais moi j'ai fait encore une partie hier soir, on était à 20-18. Sachant que, tu vois, c'est normalement, on arrête à 15, mais il faut avoir une différence de 15 à 9. Mais si ouais. T'arrives pas de 15 à 9, il faut que t'ailles jusqu'à 20, quoi. Mais c'est super tendu.
Il y a une tension qui est assez forte sur ce jeu, ouais.
Ah ouais, carrément.
Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans Patchwork. Alors, Patchwork, jeu très célèbre, hein, qui a un vrai succès commercial, je pense, on peut le dire, qui est l'une des références du jeu à deux joueurs.
Ouais.
Alors déjà, la particularité de Patchwork à l'époque, c'était on est sur un jeu d'agencement de polyomino hein, qui peut évoquer clairement le jeu vidéo Tetris. Voilà, on a ces pièces de diverses formes qu'on va essayer d'agencer sur notre plateau personnel. Le but étant tout simplement de recouvrir un maximum de ces cases. Chaque case qu'on n'aura pas réussi à recouvrir sur son plateau nous fera des points négatifs. Alors ça, en 2023, ça paraît un peu classique. On a beaucoup de jeux. Moi, j'ai l'impression d'en avoir une nouveauté par semaine sur ce genre-là.
C'est vrai, c'est
mais à l'époque, c'était pas si courant que ça. Et c'était assez chouette d'avoir un jeu avec ce feeling d'agencement spatial comme ça. C'était, je dirais pas révolutionnaire, mais assez original et atypique. Donc ça, on a ce plaisir à le faire son petit bidouillage dans son coin. Comme si je mets telle pièce là, faut que je fasse gaffe après parce qu'il y aura plus qu'une pièce en forme de L qui pourra passer. Voilà, on essaie de se projeter un peu sur la construction de notre puzzle. Et après, on va avoir un vrai jeu de stratégie qui va se découvrir au fur et à mesure des parties avec une vraie interaction avec l'autre joueur. L'idée, c'est qu'à son tour, on a le choix parmi trois pièces. On va pouvoir en acheter l'une de ces trois. Et le joueur suivant aura le choix d'acheter une des trois pièces qui suivront la pièce qu'on a achetée. Donc ça crée une certaine finesse parce que la pièce que j'achète va avoir un impact sur ce que mon adversaire peut acheter à son tour. Donc il faut garder un œil sur son tableau. Et même après, on peut, moi ce que j'appelle de la stratégie, hein, compter les coups, dire si j'achète ça, je pense que Mathieu il va acheter cette pièce-là, du coup je pourrais accéder à cette pièce-là derrière. Donc ça crée pas mal de finesse. L'autre idée géniale du jeu, c'est le coût des pièces. On va pouvoir les acheter avec des boutons, qui est la monnaie du jeu. Hein. Grosso modo, il y a une pièce qui va coûter 3 sous, une autre qui va coûter 5 sous. Mais il y a une deuxième monnaie à dépenser pour acheter les pièces, qui est le temps.
Ouais.
Chaque pièce coûte du temps et on va avancer sur la piste du temps à chaque fois qu'on va acheter des polyominos. Et les joueurs ne vont pas jouer chacun leur tour. Ça va pas être mon tour, puis le tour de Mathieu, puis mon tour. C'est toujours le joueur qui a dépensé le moins de temps qui enchaîne les achats jusqu'à ce qu'il dépasse son adversaire, dont ce sera le tour.
Ouais.
Et ça, pareil, ça crée une vraie finesse sur, si j'achète ça, je dépense peu de temps, donc c'est re à moi de jouer, donc je vais pouvoir acheter telle pièce. C'est une excellente idée. Alors, c'est pas une idée de Uwe Rosenberg. À la base, c'est une mécanique qu'on avait déjà vue dans Glenmore de Matthias Kramer. Mais là, il a réussi, je trouve, à la sublimer via l'interaction que ça crée entre les joueurs.
Et on retrouve cette mécanique hein, dans de nombreux jeux aujourd'hui. Le dernier en date, c'est Archéologique, où c'est pareil, ça va être le dernier à dépenser du temps qui va pouvoir jouer.
Oui, effectivement, c'est une mécanique qui marche super bien. Alors, il me semble que après Glenmore, on avait retrouvé ça dans Tokaido
d'Antoine
Boza. C'est assez fin à jouer, c'est assez intéressant, ça crée un bon dilemme. Est-ce que je fais ce coup qui me coûte peu de temps pour rejouer, ou est-ce que il faut que j'aille faire ce coup-là qui est super important pour moi, pour ma stratégie, au risque de passer plusieurs tours de jeu. C'est vrai que c'est une mécanique qui est très intéressante. Moi, Mathias Kramer est un auteur que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il a des idées qui sont vraiment excellentes à chaque fois. Et cette mécanique du temps est vraiment top.
Donc, on va revenir sur Patchwork. Patchwork, c'est un jeu qui a pas révolutionné le monde du jeu, mais c'est un classique aujourd'hui de joueurs.
Ouais, c'est un classique. C'est vrai que nous, à la boutique, on a un rayon dédié aux créations conçues spécialement pour deux joueurs. Et c'est l'une des plus grandes références de ce rayon. C'est l'une des plus grosses ventes. C'est un excellent jeu. Ça plaît énormément. C'est une valeur sûre, on peut dire. C'est vrai que si un client repart avec un Patchwork, je suis à peu près sûr qu'il va bien s'amuser.
Ouais, il y a eu de nombreuses versions de Patchwork avec différents thèmes qui n'ont pas été toutes reprises en France. Mais on a notamment le Patchwork Express pour avoir un Patchwork un petit peu plus rapide, parce que c'est un jeu qui est quand même assez long.
Ouais, le Patchwork est assez long, c'est une grosse demi-heure de partie, et moi j'avais beaucoup apprécié le Patchwork Express, qui le rendait beaucoup plus familial, plus abordable. On perdait peut-être un peu en finesse et en stratégie, mais oui, c'était une belle alternative. Et après, moi j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que Uwe Rosenberg, quand il se lance sur un style de jeu, il s'arrête pas à un jeu, il en fait plein derrière. Il a fait pas mal de choses intéressantes. Alors moi, c'est Nova Luna qui m'avait énormément marqué.
Nova Luna, oui. Qui avait été nommé au Spiel, d'ailleurs.
Ah ça, je savais pas. Ok, nommé au Spiel, c'est vrai que moi, c'est mon préféré de ce qu'il a fait dans le genre. C'est juste de l'agencement de tuiles de couleurs, et ça va vous créer des sensations de combo comme sur un jeu de cartes à effet. C'est assez dingue. Et cette année ou l'année dernière, il a sorti Applejack aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était une super réussite aussi dans le genre, où on va construire son verger pour avoir plein de pommes partout et agencer des couleurs dans tous les sens. Très fin à jouer aussi.
Il y avait un jeu aussi qui était sorti, alors je crois que c'était chez Funforge, et qui reprenait un petit peu l'esprit de Nova Luna.
Ah, je l'ai pas fait. Oui, ça
moi non plus. Ouais, quelque chose comme ça, mais il est pas resté longtemps en stock, et je pense qu'il n'y a pas eu de reprint dessus.
Non, je suis pas sûr que ça se fasse encore, mais moi j'avais pas eu l'occasion d'essayer celui-ci. Mais c'est vrai que Uwe Rosenberg, tout ce qui est fait, c'est vraiment très intéressant, et surtout du point de vue de la gestion, il a fait pas mal de jeux qui sont assez marquants dans le genre, comme Agricola, Le Havre, La Route du Vert, et moi cette année un gros coup de cœur de jeu de gestion, c'est Atiwa d'Uwe Rosenberg.
Atiwa, donc ça c'est un nouveau jeu, un gros jeu dans l'esprit Agricola.
Ouais, c'est un gros jeu de gestion comme Uwe Rosenberg sait les faire. Là, il a fait un petit peu différemment que d'habitude. On va dire qu'on est sur quelque chose d'assez épuré pour du jeu de gestion, comme avait pu l'être La Route du Vert à l'époque.
D'accord.
Donc, il n'y a pas 15 pages de règles. C'est un jeu de gestion qui se prend plutôt facilement en main, avec une thématique très intéressante. On va essayer de créer un cercle vertueux. Donc, ça se passe. Alors, j'ai oublié la région d'Afrique où se situe.
C'est au Ghana, non?
Ouais, c'est ça, exactement. Merci. Et du coup, on doit créer un cercle vertueux en éduquant la population aux bienfaits des chauves-souris pour que les chauves-souris puissent proliférer, manger plus de fruits pour déféquer sur les terres arides, pour faire pousser des arbres, pour avoir plus de fruits, etc. Et donc, on a un jeu de gestion avec, on va vraiment ressentir ce côté cercle vertueux où le moteur part vraiment très très fort et très très vite. Et en même temps, il faut développer son village en construisant plein de bâtiments. C'est très chouette d'un point de vue thématique, mais aussi mécaniquement, c'est assez original.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan. Et on se retrouve dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission.
Très bien. Merci, Mathieu.
Salut, belle Jonathan.
En famille ou avec des amis, c'est ludique. C'est l'heure de jouer.
Combustio, Indundatio, Eversio, ce sont ce type de sorts que vous pourrez lancer si vous avez la bonne formule. Aujourd'hui, je vous propose d'être un directeur d'une école de magie. Oui, votre but sera d'amener vos apprentis magiciens à la maîtrise de différents éléments tels que le feu, l'eau, l'air et la terre. Une seule école pourra gagner cette compétition. Les blancs griffons sont opposés aux dragombres. Le match commence dans un instant. Bienvenue dans Clash of Magic School, un jeu de joueurs de Uwe Rosenberg que nous propose Yellow. Le jeu était sorti il y a quelques années et s'appelait Babel, mais n'avait rien à voir avec l'univers de la magie, bien entendu. Allez, on pose le plateau sur la table, composé de 5 emplacements de chaque côté, représentés en son centre par les différentes arènes. On pose la pile de cartes épreuves d'un côté et la pile de cartes élèves de l'autre. Ensuite, chaque joueur récupère son pion, C'est toujours un dragon qui joue en premier, d'ailleurs, et il aura moins de cartes élèves au départ en main, c'est logique. Alors à votre tour, vous devez prendre 3 nouvelles cartes élèves de la pioche. Ensuite, vous allez faire des actions autant que vous voulez et que vous pouvez bien sûr. On peut se déplacer, hein, action qui consiste à défausser une carte pour placer son pion, emblème, dans une arène. Exemple, je défausse une carte eau, je pose mon pion sur l'arène de l'eau. Une autre action est de déployer des élèves. Alors là, peu importe le nombre et la couleur de l'élément, vous pouvez poser autant de cartes où se trouve votre pion emblème. Autre action possible, passer une épreuve. Alors pour ce faire, vous allez choisir une carte épreuve que vous posez en dessous de l'arène où se trouve votre pion emblème. Attention, sauf en cas de sort, on ne peut pas sauter d'épreuve. Vous avez une épreuve de niveau 1, ensuite il faudra une épreuve de niveau 2, mais cela dépend du nombre d'élèves présents. Si vous avez 3 élèves, vous ne pouvez pas passer une épreuve de niveau 4. Il faut bien comprendre cette mécanique. Parmi les actions, on peut convoquer des élèves. Pour ça, il suffit de prendre vos 3 dernières cartes élèves dans une arène et les déplacer dans une autre arène. Enfin, la dernière action, c'est celle que vous attendez, bien sûr, c'est de lancer un sort. Mais il y a quelques conditions à respecter pour pouvoir le lancer. Il faut 3 cartes de la même couleur qui se suivent. La carte qui va lancer le sort et qui sera défaussée après, car l'élève a fait beaucoup d'efforts, doit se trouver au milieu. Si je veux lancer le sort rouge, Combustio, je dois avoir 3 cartes rouges. Un sort qui fait mal pour mon adversaire car il doit retirer toutes les cartes d'épreuve de l'arène en question. Batrax, le sort vert, me permettra de choisir un élément dans l'arène et mon adversaire devra défausser toutes les cartes élèves de cet élément. Hypnot, le sort jaune, me permettra de voler la dernière carte d'une colonne à mon adversaire ainsi que toutes celles de la même couleur. Indundatio, le sort bleu, pourra me faire passer un niveau dans les épreuves. Enfin, Eversio, le sort violet, la matière noire, m'autorise à voler une carte épreuve à mon adversaire. Dernière chose, au lieu d'utiliser ces sorts, vous pouvez dire Maleficio. Dans ce cas, votre adversaire devra immédiatement défausser la moitié de ses cartes en main. Eh oui, on utilise ce sort si on voit que l'autre a beaucoup de cartes. Après avoir fait ces différentes actions, vous allez annoncer les 2 épreuves suivantes en révélant 2 nouvelles cartes épreuves. Puis, c'est à votre adversaire de jouer. La partie s'arrête dès que l'un des joueurs atteint 15 points de victoire et que l'autre a 9 points, ou moins. Il se peut qu'il y ait des prolongations et qu'il faudra obtenir plus de points pour l'emporter. Il existe aussi des variantes que je vous laisserai découvrir, comme dans tous les jeux de Hugh Rosenberg, 2 joueurs, c'est très tendu. Il faut jouer avec une bonne stratégie pour réaliser ses sorts au bon moment. Il sera intéressant d'attendre le moment propice pour faire baisser le score épreuve de notre adversaire. Il peut y avoir un tournant à chaque moment. Une chose est sûre, c'est tendu. C'est un jeu avec une tendance vicieuse qui force les joueurs dans un conflit permanent. Alors si vous aimez ça, foncez. Ça s'appelle Clash of Magic School et ça sort donc chez Yellow.
C'est ludique, des jeux et des hits. C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le jeudi, les éditeurs attendent ce moment avec impatience. Est-ce qu'on y rejoue, est-ce qu'on y rejoue pas? Quel va être le verdict de Copla aujourd'hui? Salut Copla!
Salut Matt, bonjour à tous et à toutes.
Alors aujourd'hui, on va parler de quel jeu? Il y a un an, on jouait à quoi déjà?
Alors, l'année passée, Matt, semaine 43, tu nous parlais de Unlock Kids, ouais. Le premier de la gamme, Peter Pan, Auricalque, Lofoten et Toco Island. Alors, dans cette liste, un petit peu comme la semaine passée, il n'y en a qu'un seul auquel j'ai pu jouer.
D'accord.
Il s'agit de Auricalque, mais... n'ayant qu'une seule et unique partie à mon actif et en plus à 2 joueurs, ce qui n'est clairement pas une configuration que je vous conseille.
C'est clair.
Je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir vous en dire, alors j'ai à la place pris encore une petite liberté.
D'accord.
Désolé Matt. et j'ai regardé ce qui s'est passé en semaine 43 d'il y a 2 ans dans cette émission.
Ok, alors, voilà. Il y a 2 ans, alors là je me rappelle
et
plus.
Là, alors, et là, j'ai vu justement un titre qui était pour moi bien plus inspirant, et donc le titre que j'ai choisi c'est Welcome to the Moon.
Ah, bienvenue dans la Lune.
Exactement, Welcome to the Moon, c'est un jeu de Benoît Turpin et Alexis Allard, illustré par Annette Sick et édité par Blue Cocker. Alors je me souviens très bien de la toute première fois que j'ai entendu parler de Welcome to the Moon. Je travaillais à l'époque en tant que vendeuse en magasin de jeux de société et c'est un commercial du distributeur BlackRock qui était venu former nos équipes sur les futures sorties de leurs éditeurs.
Ouais.
Et donc il nous a parlé de Welcome to the Moon et je me souviens aussi très bien de notre première réaction à tous et à toutes. Ça ressemblait à un Roll and Write à 45 balles. mais on va jamais allez réussir à le vendre, en fait. Alors, dites-nous, monsieur, qu'est-ce qui explique ce prix? Qu'est-ce qu'il a de si différent de ses prédécesseurs? Quels sont les arguments qu'on va bien pouvoir donner à nos clients pour vendre ce jeu, quoi? Alors oui, je parle de ses prédécesseurs, puisque donc les Welcome to the Moon, il s'inscrit dans une belle gamme qu'on appelle les Welcome ou les Welcome to, hein, à votre guise. Le premier opus, il date de 2018 et il s'agit de Welcome to Your Perfect Home. Et ce jeu, il s'est très vite inscrit comme une référence du roll and ride. Alors, c'est même plutôt techniquement un flip and ride, puisqu'il s'agit donc de retourner des cartes pour écrire des choses sur vos petites notes. Et qu'on appelle donc plus largement les jeux à cocher. Voilà, ouais. On va les appeler comme ça. Donc, ce Welcome to Your Perfect Home, il a eu droit à 3 extensions. Certains avec des thématiques sympathiques comme Halloween, puisqu'on y est presque.
Ah bah oui.
un mode solo. Il y a eu un développement sur Board Game Arena et même une application mobile. Donc, vraiment, vraiment bien installé. Quelques temps après, on a vu arriver Welcome to New Las Vegas, en 2020, 2 ans après. Donc, c'est une suite indépendante.
Plus expert.
Welcome to Your Perfect Home. Oui, un petit peu plus costaud, en effet. Alors, fini de construire de jolies maisons de quartier. Hein. C'est là, place au casino, aux hôtels, aux limousines, bref, à Las Vegas, quoi. Et la même année que celui-ci, on a vu aussi arriver une extension du premier. C'était un crossover entre donc Welcome to Your Perfect Home et l'univers de La Petite Mort, qui est une BD de David Mourier. Donc c'est clairement une gamme qui s'est très bien installée sur le marché du jeu de société. Voilà, c'est posé, c'est là et ça dure dans le temps.
Et là, on se dit, est-ce qu'il va y en avoir encore?
Eh bien oui, justement, revenons-en donc à notre sujet, Welcome to the Moon, dans tout ça. Donc techniquement, c'est bien le troisième jeu de la gamme. Et dans ce dernier volet, vous aurez l'opportunité de créer et de développer votre propre colonie lunaire. Bon, pas de grande surprise au vu du titre. Alors la mécanique de base, elle reste relativement simple, surtout si vous connaissez les Welcome to, vous ne serez clairement pas en terrain inconnu. C'est une mécanique qui est plutôt bien huilée, qui est très intuitive. Les parties sont donc fluides, sans ennui. On a une course à l'optimisation et aux missions qui est assez prenante. On va vivre des « Ah, j'aurais peut-être dû la mettre là, en fait, celle-là. » Ou alors « Ah, il me faut absolument un 5, il me faut sors-moi un 5. » Bref, il y a de bonnes tensions et beaucoup de plaisir à jouer. Bon alors, c'est très chouette, hein, mais on n'a toujours pas expliqué le pourquoi du comment c'est 40-45 euros la boîte.
Ben oui, bien sûr.
Eh bien, c'est très simple. Donc, avec ce nouveau Welcome to the Moon, vous avez en réalité à l'intérieur de cette boîte 8 jeux en un.
Ouais.
8 cartes différentes sur lesquelles vous venez écrire vos petits trucs. Ce sera un peu comme 8 niveaux dans un jeu vidéo, mais des niveaux exponentiels et puis quand même différents, avec un niveau de difficulté croissant, de nouvelles manières de jouer, de gagner la partie. C'est 8 jeux qui sont tout aussi bien bons les uns que les autres et qui offrent 8 expériences tout aussi exceptionnelles les unes que les autres. Donc c'est assez incroyable. Et rajoutez à cela une campagne évolutive, narrative et même immersive, ce qui n'est quand même pas une mince affaire dans la catégorie des jeux à cocher.
C'est clair.
Une campagne qui vous emmène donc à la conquête de l'espace en réemployant avec finesse ces fameuses mécaniques, tout en gardant l'essence de Welcome to. Assez incroyable. Donc dans cette seule boîte, vous avez 8 jeux différents, une campagne pour vivre une incroyable épopée spatiale, et même que vous pouvez tout simplement jouer aussi de manière individuelle, donc séparément, rapidement. Voilà, vous avez particulièrement aimé la carte numéro 6, eh bien, partons pour une petite partie de la carte 6 avec les amis, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment à vous de décider ce que vous en faites de ces 8 jeux en un. Alors, il y a aussi une très belle édition, derrière Welcome to the Moon.
Parce que fini le papier.
Exactement, fini le papier. Écologiquement, oui, il y en a qui sont vraiment contents. Fini le papier, c'est des cartes en espèce de papier glacé avec votre petit stylo feutre effaçable. Vous avez donc, rien que déjà en pesant la boîte, vous comprenez que vous en avez pour votre argent. Il n'y a pas de perte de place, comme on peut le voir dans malheureusement beaucoup de jeux. Exactement. Et puis, on a aussi de jolies petites boîtes à l'intérieur à découvrir. Je vous parlais au tout début de l'année de Trek 12 qui nous offrait aussi ces petites enveloppes à découvrir. Là, c'est un petit peu pareil. Vous avez ces boîtes que vous avez envie d'aller ouvrir, savoir ce qui se oui. cache à l'intérieur. Donc vraiment une très belle édition derrière ce jeu. Donc en bref, Welcome to the Moon, c'est probablement l'apothéose de cette gamme. Peut-être même l'apothéose de celle des Flip and Write. Une fois qu'on y a touché, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à revenir aux deux précédents. Vraiment très chouette.
Et alors justement, c'est l'occasion de revenir aux précédents.
Et bien justement, voilà, côté actualité, enchaînons. On peut parler de l'édition Collector de Welcome qui reprend le tout premier de la gamme, mais avec une très belle équipe d'illustrateurs et d'illustratrices. Donc on a toujours Annette Hick, mais on va avoir Maud Chalmel, Christine Alcouf, Vincent Dutray, Bess Sobel. Enfin, c'est vraiment ouais. que des grands noms des illustrateurs et illustratrices du monde du jeu de société qui ont vraiment réussi à sublimer les univers de Welcome To. Donc pour découvrir, redécouvrir, prendre toujours autant de plaisir avec cette gamme.
Et là aussi, fini le papier.
Fini le papier, évidemment. Alors pour terminer à la question, 2 ans après, est-ce qu'on y rejoue ou pas ? C'est évidemment un oui. Et si ce n'est pas encore fait, allez-y, visez la lune, je vous promets, ça ne fait pas peur. Et si malheureusement les Roll and Write n'ont jamais eu la cote du côté de l'As d'Or, celui-ci l'a certainement dans beaucoup de cœurs.
Ben oui, et surtout qu'il a eu notre premier Céludite d'Or il y a 2 ans.
Et ben donc, voilà, ça ne fait que confirmer mes dires.
Exactement. Merci beaucoup, Copla.
Merci Matt, et on se retrouve la semaine prochaine.
Dans 15 jours.
Dans 15 jours. Ah oui, tout à fait.
C'est pas grave.
Avec plaisir.
Mais on peut s'appeler la semaine prochaine si tu veux, il n'y a pas de souci.
Ben pourquoi pas, voilà.
Salut Copla, et
très bonne
semaine.
Journée.
Salut Chia.
Au revoir.